Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Au Togo, deux partis de l'opposition vont tenter d'obtenir une révision de la Constitution. Cela fait des années que l'opposition réclame la limitation du nombre de mandats présidentiels ainsi qu'une modification du mode de scrutin. Je vous rappelle que le président de la République est élu à un seul tour et qu'il peut briguer la magistrature suprême autant de fois qu'il le souhaite. Et c'est donc dans ce contexte qu'en juin dernier, le gouvernement a présenté devant l'Assemblée nationale un projet de loi reprenant justement les revendications de l'opposition. Mais les députés ont voté contre cette réforme. Du coup, deux partis de l'opposition vont tenter de représenter le même texte, le CAR et l'ADI. Ces deux partis donc entendent faire pression avant l'élection présidentielle de l'année prochaine, scrutin qui devrait théoriquement se dérouler au plus tard au mois de mars. Par ailleurs, plusieurs voix, dont celle des églises, demandent la mise en place de réformes avant le scrutin présidentiel. Alors que vous inspire la démarche de ces deux partis de l'opposition? Le texte a-t-il une chance d'être adopté par les députés à l'Assemblée nationale? Se dirige-t-on vers des élections apaisées? 33 9 693 693 70. Vos réactions, vos commentaires, vos témoignages nous intéressent et vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. Plus de 350 messages postés. Il y a Charles par exemple qui nous dit: le Togo est à la croisée des chemins entre l'acceptable et l'inacceptable. 37 ans de pouvoir pour le père et aucune limite pour le fils, nous dit cet internaute. Bonjour André.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Lomé, dans la capitale togolaise, et vous saluez l'initiative de l'opposition.
Bien sûr, tu sais Juan, moi personnellement je travaille au sein de la société civile et il y a un moment nous avons sorti un document qui disait qu'il y avait un certain nombre de raisons pour lesquelles on ne pouvait pas s'engager en faveur justement de ces réformes-là. Et parmi ces raisons-là, il y en a qui sont internes au pays, il y en a qui sont externes. Parmi les raisons internes, au-delà de la politique globale, nous insistons sur le fait qu'après avoir visité l'histoire politique du Togo et les violences, la Commission Vérité et Réconciliation a insisté sur le fait que pour prévenir justement cette violence-là, en période électorale, les réformes étaient nécessaires afin que celles-ci puissent permettre d'éviter les frustrations qu'on observe au lendemain des élections. Au demeurant, il y a un certain nombre d'engagements que le gouvernement lui-même a pris, notamment lorsque le Premier ministre devait rentrer en fonction, notamment à travers la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi qui oblige à ce que ces réformes se fassent. Et nous pensons qu'il faut être très attentif aux raisons que les uns et les autres vont donner justement pour éventuellement ne pas voter en faveur de ces réformes. Moi, j'ose croire que aussi bien les partis politiques d'opposition que le pouvoir lui-même comprendra que ce terme d'événement à l'intérieur du pays et à l'extérieur, notamment au Burkina Faso, oblige à ce que les citoyens puissent avoir des institutions qui leur inspirent confiance. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à mon avis, Juan.
Oui. Mais André, je le disais tout à l'heure en introduction, pour planter le décor, en juin dernier, l'Assemblée nationale a eu déjà l'occasion d'examiner un projet de loi qui reprend mot pour mot les revendications de l'opposition et les députés ont voté contre cette réforme. Pourquoi cette fois-ci, le texte aurait-il, selon vous, des chances d'être adopté?
Alors, le texte devrait adopter d'abord parce que l'environnement a changé.
Donc, vous pensez que la situation au Burkina Faso peut avoir des répercussions aujourd'hui dans le vote des députés togolais et des députés de la majorité?
Mais en ce qui me concerne, je n'ose pas croire que le parti au pouvoir ne va pas tirer des événements au Burkina Faso. Et je pense aussi qu'il y a une responsabilité de l'opposition. Dans la mesure où par le passé, c'est justement parce que cette opposition, et à tort à mon avis, voulait empêcher le président Faure Gnassingbé de se présenter aux prochaines élections, qu'il y avait eu blocage. J'espère que cette fois-ci, l'opposition sera un peu plus sage et permettra que cette fameuse clause transitoire soit intégrée, de sorte que le président Faure Gnassingbé puisse lui aussi postuler et présenter sa candidature. Et au final, si effectivement...
Oui, parce que ce que demandait l'opposition il y a encore quelques semaines, c'est que la réforme de la Constitution ait un effet immédiat, c'est-à-dire que le président Faure Gnassingbé ne puisse plus se présenter à l'élection présidentielle et ne puisse pas briguer un nouveau mandat l'année prochaine, alors que dans le camp de la majorité présidentielle, On est plutôt d'accord pour une révision de la Constitution, mais à condition, on va dire, que les règles du jeu démarrent à partir du prochain mandat présidentiel. On va voir ce qu'en pensent d'autres auditeurs. En tout cas, vous parliez de l'opposition à l'instant, André. Georges, lui, nous dit que cette question de révision de la Constitution n'est pas une priorité pour la population togolaise. La jeunesse togolaise, écrit-il, est préoccupée par la situation économique du pays. Les leaders de l'opposition doivent démontrer à travers leur programme qu'ils peuvent faire mieux que le président Faure Gnassingbé, car le Togolais n'a pas l'impression, dit-il, que sa vie changera si un opposant venait au pouvoir. Bonjour Richard.
Bonjour Monsieur Juan.
La démarche de l'opposition est inopportune, avez-vous dit au Standard?
Tout à fait. Pour moi, ce n'est pas le moment. Et je vous reprends tout ce que vous avez dit tout à l'heure à propos du Burkina. Je crois que l'opposition voulait s'inspirer de ce qui se passe au Burkina pour encourager le mouvement et demander le soutien de la population. Mais je crois que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas à ce moment qu'il faut utiliser ce crédit. Moi, je crois qu'il faut plutôt aller aux élections, faire tout pour que les élections soient exigées, pour que les élections soient transparentes, libre et démocratique, et là alors veiller à ce que les résultats soient ce qu'on aura voté comme les votes. Quoi. Et là alors, je crois que là, c'est là où il faut plutôt maintenir la pression sur le pouvoir pour que ces résultats soient reflètent ce que la population a voté.
Alors, oui. Dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la priorité pour vous, ce n'est pas de réviser la Constitution, mais c'est d'exiger que l'élection présidentielle soit transparente et démocratique.
Tout à fait. Et là, alors, lorsque le parti au pouvoir voudra faire des manœuvres, là, on demandera l'adhésion de la population, comme au Burkina. Et comme au Burkina, parce que là, nous sommes à moins de 6 mois des élections, et là, et se met la zizanée, la cacophonie au sein de la population, demandant cette histoire, qui n'était pas dans ce. Vous avez posé la question tout à l'heure à l'auditeur précédent, si ces tests ont toutes les chances d'aboutir. Moi, je dis non, pas du tout. Savez, on connaît bien le parti au pouvoir. Et, c'est des gens qui sont bien rodés en politique. Je crois que leurs propres députés ont rejeté déjà cette démarche, cette requête. Je ne vois pas pourquoi ils vont accepter.
Ouais, s'ils l'ont refusé en juin, pourquoi ils l'accepteraient aujourd'hui? Enfin, Richard, le premier auditeur, disait il y a quand même le contexte sous-régional, la situation au Burkina Faso qui peut effectivement influencer désormais le vote des députés d'UNIR, hein, donc de la majorité présidentielle. D'autres réactions au Standard. Sam, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour aux auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes à Lomé, alors que pensez-vous de cette initiative d'une partie de l'opposition togolaise?
Alors, cette initiative de réintroduire le projet de loi pour modification de la Constitution est une bonne chose, parce que vous savez, au Togo, les acteurs politiques ont tendance de faire de la fixation, en ce sens que le 30 juin dernier, lorsqu'il s'était agi de l'introduction de la nouvelle loi par le gouvernement, la majorité des députés avaient rejeté le texte en bloc, parce que dans les couloirs et au cours des discussions en commission, il s'était agit de la candidature du président actuel en 2015. Et donc l'opposition, dans sa radicalité, avait estimé qu'il n'était plus opportun pour Faure Gnassingbé de se présenter en 2015, étant donné qu'il va boucler les deux mandats en 2015, justement. Et donc, au niveau de la majorité des députés de UNIR, il ne fallait pas donner l'arme avec laquelle l'opposition va les abattre. Et donc, ce test a été rejeté. Mais cette fois-ci, si le CAR et l'ADI ont jugé utile de réintroduire à nouveau ce projet de loi, nous pensons que cette fois-ci, les uns et les autres tireront leçon de ce qui s'est passé le 30 juin pour enfin adopter ce projet de loi pour que au soir de mars 2015, qu'il n'y ait pas de contestation des élections.
Ouais. Mais est-ce qu'on peut changer les règles du jeu à 6 mois d'un scrutin présidentiel? Vous savez bien que non. En tout cas, les textes de la CEDEAO, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, interdisent toute modification de la Constitution, s'agissant qui plus est de l'organisation des élections, du mandat présidentiel, de la durée également des mandats, etc., etc. Tout ça, on ne peut pas le modifier 6 mois avant un scrutin présidentiel.
Oui, on ne peut pas le modifier, Juan Gomez, mais justement, du moment où les acteurs politiques pourront s'entendre sur le minimum, du moment où il y aura un consensus, je suis sûr que les pays, les autres pays, les présidents de la CEDEAO aligneront sur la volonté des acteurs politiques togolais. Parce que nous ne pouvons pas être toujours en autarcie. Nous sommes pratiquement le seul pays dans la sous-région où le mandat présidentiel n'est pas limité, où le mode de scrutin est toujours à un tour. Mais nous pensons que c'est une bonne chose d'introduire ces réformes-là, parce que le chef de l'État, il a toujours manifester cette volonté en créant les cadres de dialogue et de concertation, les CPDC 1, oui. CPDC 2.
Oui, d'accord, mais enfin, en même temps, l'opposition dira que ces cadres de dialogue n'ont pas servi à grand-chose puisqu'ils n'ont rarement abouti à des actions concrètes. Sanda, sur la page Facebook de l'émission, se dit optimiste, un peu comme vous, Sam, hein, optimiste à condition qu'on n'invoque pas l'effet immédiat ou la rétroactivité de cette réforme. Et vous êtes effectivement plusieurs à insister sur ce point, sur le fait que la réforme ne doit pas interdire au président Fornia Simbé de se représenter en mars prochain. Bonjour Florian, vous êtes à Paris.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous.
On vous écoute.
Alors, moi, de ce que j'en pense, effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que ce qui pose problème aux partis en place, c'est la limitation du mandat présidentiel. Ce qu'il faudrait, je pense que s'il y a une rétroactivité au niveau du nombre de mandats, c'est ce qui fait que les députés de la majorité à l'Assemblée refusent de voter cette réforme, même si je pense qu'elle est nécessaire. Mais bon, si c'est vrai que si on peut aboutir à une élection présidentielle à deux tours, ça peut, je pense, d'une certaine façon renforcer le fait qu'il puisse y avoir une alternance par la suite.
Mais ça veut dire quoi? Attendez, Florent, que je comprenne bien. Vous dites que c'est nécessaire de réviser la Constitution, s'agissant du nombre de mandats et du mode de scrutin, mais cette nouvelle règle, elle doit être applicable pour le scrutin qui va suivre, donc pour celui de mars 2015, ou pour celui de 2020?
Alors, moi je dirais plutôt que ça devrait être applicable pour le scrutin qui va suivre. Mais comme je vous le disais, je pense que c'est sur ce point-là sur lequel le gouvernement bloque, en fait. Ils font en sorte que ça ne passe pas. Donc après, ils pourraient peut-être couper la poire en deux, c'est-à-dire faire en sorte que si jamais le président actuel remporte cette élection, que ce mandat-là qu'il va effectuer soit éventuellement le dernier. Mais bon, encore, ça c'est une supposition. Est-ce que ça va être accepté par le parti en place? C'est une autre histoire.
Ouais. Rien n'est dit encore que ces deux partis de l'opposition puissent présenter leur proposition de loi au Parlement, puisque pour qu'une proposition de loi au Parlement soit examinée, il faut rassembler 19 signatures, 19 députés. Pour l'instant, ces deux partis, le CAR et l'ADI, n'en comptent que 8. Donc il faut que le reste de la majorité de l'opposition soutienne la démarche de ces deux partis. Ce n'est pas encore gagné, même si ce matin sur notre antenne on a pu entendre un des conseillers, un des porte-parole en communication dire on va examiner, effectivement on va en discuter et on va voir comment on va pouvoir ensemble essayer d'introduire ce texte à l'Assemblée nationale. Mais bon, voilà, pour l'instant officiellement le reste de l'opposition ne s'est pas encore associé à la démarche du CAR et de l'ADI. Gervais, vous êtes à Paris, bonjour.
Bonjour.
Il est trop tard, dites-vous, pour toucher à la Constitution.
Oui, vous l'aviez si fort habilement rappelé, en fait, dans votre intervention, à savoir qu'on a aussi des institutions au sein de la CEDEAO qui interdisent justement toute modification de la Constitution à 6 mois des élections. Mais je pense aussi qu'il faut absolument qu'au Togo, on évite les amalgames, en fait. La situation au Burkina n'est pas la même qu'au Togo. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un consensus pour que la limitation du mandat, c'est un acquis. Après, la question qui se pose est la rétroactivité, en fait. Et donc, je ne vois pas que cherche l'opposition en portant encore au devant de la scène ce projet de loi. Aujourd'hui, il faut se concentrer, comme l'a dit certains de nos interlocuteurs tout à l'heure, sur les élections à venir. Et on voit bien que l'opposition a vraiment du mal à présenter un candidat unique, et je pense que c'est surtout une manœuvre de diversion. Aujourd'hui, on a besoin d'institutions stables. Oui, à la limitation des mandats, je pense que c'est un acquis, mais faire de cette question-là un moyen de barrer la route à Faure est une erreur. Je pense qu'il faut avant tout placer les intérêts du peuple au-dessus. Et je vois mal comment les députés pourraient s'opposer à cette limitation de mandat. Pour moi, c'est un acquis. Encore faut-il que les choses soient claires. Donc on attend de voir par rapport au projet de loi qui pourrait se présenter, comment l'opposition entend la présenter et est-ce que la question de la rétroactivité ne sera plus, on va dire, le point de crispation entre la majorité. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se focaliser et rappeler.
Et c'est effectivement le point qui fait blocage. Hein. La rétroactivité, c'est le principal point de divergence entre l'opposition et la majorité présidentielle. Merci Gervais de nous avoir appelé. Autre réaction, elle nous vient de Lomé. Charles Gilbert, bonjour.
Bonjour Anne Gomez, bonjour à tous les auditeurs.
Vous dites que ce n'est pas à l'Assemblée nationale de trancher sur cette question. Vous réclamez-vous un référendum ?
Oui, je disais que toutes les réformes qui sont entreprises aujourd'hui peuvent être taxées d'opportunistes. Pourquoi ? Parce que au niveau de l'opposition, on attend un peu d'être dans des contextes un peu bloqués pour réclamer un certain nombre de réformes. Alors que ça aurait pu être quelque chose sur lequel on anticipe et qu'on demande la volonté du peuple. Bon, alors la volonté du peuple a deux canaux d'expression. On a vu que l'Assemblée nationale a toqué les tests.
Oui.
C'est bien que c'est une institution de la République, elle est fondée par la République. Maintenant, si les opposants, ou du moins ceux qui veulent que ça change, et c'est le cas de beaucoup de gens, veulent que ça change, c'est qu'il faut maintenant amorcer une autre démarche pour voir comment faire passer les tests. Alors, à la date d'aujourd'hui, on peut se rendre compte que on est dans des délais qui ne sont plus, où on n'est pas en mesure de faire une réforme. Et c'est en ce moment que pour trouver un peu la paix, moi je le dis, comme ça, pour trouver un peu la paix sociale, on initie des réformes, qu'on sait que ça ne passera pas, puisque on se passe sous le coup des sanctions. Alors qu'on aurait pu anticiper en juin, en juillet, sur ces questions-là, amener les acteurs politiques à discuter et faire les choses dans les normes, au lieu d'arriver à des tensions et provoquer tout le temps des tensions.
Oui. Avons-nous, Atsu, oui, je le vois sur mon écran, Atsu qui est à Amsterdam, puisque c'est vrai que la diaspora togolaise souhaite prendre part à ce débat. On a eu l'occasion d'en entendre quelques-uns des auditeurs de la région parisienne. Atsu, vous êtes à Amsterdam, aux Pays-Bas. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Bienvenue, on vous écoute.
Oui, moi je suis d'avis et je suis très content que l'opposition a pris cette décision d'introduire une nouvelle loi. Mais moi, une chose est de faire une proposition et une chose que cette loi soit passée à l'Assemblée, parce que connaissant très bien le régime en place, ils ne vont jamais offrir ce cadeau-là à l'opposition. Cette loi ne date pas d'aujourd'hui et c'était un accord qui a été signé depuis 2006. Même la CVGR l'a si bien dit. C'est les prémices des élections présidentielles qui engendrent les carnages au pays. Donc pour que cette loi soit passée, il va falloir que les discussions de coulisses soient faites. Mais moi, je doute très fort que cette loi ne va jamais se passer.
Mais pourquoi ? Pourquoi doutez-vous à ce point-là ? C'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, il y a eu un accord, l'accord politique global signé entre l'opposition et le pouvoir en 2006, qui prévoyait cette réforme. Nous sommes en 2014, on parle de la présidentielle de 2015. Pourquoi êtes-vous si sceptique ?
Connaissant très bien le régime en place qui est là depuis bientôt un demi-siècle, 50 ans, une seule famille, connaissant très bien leur attitude, vous avez si bien cité, c'est depuis 2006 que cet accord a été signé. Ce n'est pas à 6 mois des élections, Juan Gomez, vous êtes d'accord avec moi que le pouvoir en place va donner ce cadeau-là à l'opposition? Non, jamais. Et même cette initiative qui a été prise par ces deux partis politiques, et je n'en doute pas moins que l'ANC, qui est un grand parti aussi, va le soutenir, c'est une très belle initiative. Même chose est que de présenter une belle initiative, et une chose est que cette partie de majorité qui est à l'Assemblée nationale, qui est unie, d'accepter cette proposition de loi de limiter un soit peu.
En tout cas, vous n'y croyez pas, et on aura l'occasion évidemment d'en parler à nouveau dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci à tous de votre fidélité. Le débat se poursuit évidemment sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission, page officielle RFI, appel sur l'actualité. Demain, nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes à 67 jours du coup d'envoi de la compétition. Et c'est théoriquement aujourd'hui que la Confédération africaine de football doit rendre son verdict définitif après la nouvelle demande de report du Maroc. Le Maroc qui était censé organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à partir du mois de janvier prochain. Alors quel scénario la CAF doit-elle privilégier ? Faut-il annuler la compétition ? Doit-elle l'organiser dans un autre pays ? Dans ce cas lequel ? Eh bien on en parlera tous ensemble demain. Merci à tous.
Appel sur l'actualité, vous avez